Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un magazine qui a vraiment pris le pouls du Maroc fin novembre 2025, le magazine iWeek.
Oui.
L'idée, c'est vraiment de brosser un portrait du pays à travers ses grands débats, ses ambitions, à un an d'élection qui s'annonce cruciale.
Et c'est un portrait qui est plein de contrastes, hein. On sent une nation qui est en pleine accélération économique, mais qui, en même temps, se pose des questions vraiment fondamentales sur son modèle social.
Absolument. Au programme, justement, ce débat politique brûlant sur une nouvelle aide sociale, alors avancée ou simple calcul électoral. On verra aussi des prévisions économiques qui, elles, donnent le vertige. Le Maroc dans le top 5 africain, rien que ça.
C'est impressionnant.
Mais on parlera aussi de menaces, des menaces bien réelles, comme une nouvelle arnaque vocale, vous verrez, c'est assez terrifiant, qui utilise l'intelligence artificielle. Et puis on finira bien sûr sur une note de fierté avec une star du foot. Bon, alors on décortique tout ça ?
Allez !
Le sujet qui fait vraiment la couverture et l'édito, c'est cette augmentation de l'aide sociale directe qui a été annoncée par le gouvernement d'Aziz Akhannouch. Et l'édito, il y va sans détour.
Ah oui, la question est posée cash.
C'est ça. Est-ce que c'est une vraie avancée de l'État social ou est-ce que ce sont, je cite, des chèques électoraux juste avant les législatives de 2026 ?
C'est vraiment la question centrale. Et pour que ce soit concret, on parle de quoi ? On parle de 250 dirhams pour les trois premiers enfants.
375 pour les orphelins.
Bonbonne de gaz butane, qui est vitale pour des millions de foyers.
Lui, il ne bouge pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mesure, elle ne sort pas de nulle part. L'éditorial la replace dans un contexte bien plus large, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et c'est là qu'on touche au cœur du dilemme. Cette aide, en fait, elle s'inscrit dans la vision de la généralisation de la protection sociale, qui est un projet colossal initié par le roi Mohamed VI il y a déjà plusieurs années.
D'accord.
Donc d'un côté, on a une réponse qui est indéniable à des besoins sociaux urgents. Les chiffres sont là. 4 millions de familles sont déjà couvertes. C'est massif.
Donc sur le fond, la politique sociale semble tout à fait légitime. Mais alors, pourquoi ce débat ? Pourquoi cette polémique ?
C'est une question de timing. Le fait d'annoncer une augmentation pareille juste avant une année électorale, ça alimente forcément le soupçon.
Bien sûr.
Les critiques, qui sont relayées dans le magazine, y voient une forme de clientélisme, une manière en gros d'acheter des voix, ce qui, selon eux, décrédibilise tout le processus démocratique. On est vraiment face à ce dilemme classique, tu vois. Une bonne politique, mais un timing qui la rend politiquement suspecte.
Et ce qui est fascinant, c'est que ce débat social, il a lieu dans un contexte économique qui, lui, est paradoxalement au beau fixe.
Ah oui, complètement.
Le magazine cite des projections du FMI, de The African Exponent, et elles sont spectaculaires. Le Maroc pourrait devenir la 5e puissance économique d'Afrique d'ici 2026.
On parle d'un PIB qui passerait la barre des 196 milliards de dollars. C'est une trajectoire qui est impressionnante, en effet.
Et elle repose sur quoi, concrètement ?
Mais elle n'est pas basée sur du sable, elle est tirée par des secteurs industriels qui sont très solides et surtout en pleine expansion.
Comme l'automobile par exemple. iWeek mentionne Renault, Stellantis et même le chinois BYD. On n'est plus seulement dans l'assemblage là.
Non, on est dans la construction d'un écosystème entier. L'objectif, il est clairement affiché, 1 million de véhicules produits par an.
Et il n'y a pas que l'automobile ?
Non, il y a aussi l'aéronautique. La région de Casablanca est devenue un fournisseur stratégique pour des géants comme Boeing ou Safran. Ce qui est remarquable dans le modèle marocain, c'est vraiment cette stratégie de monter en gamme. On ne fait pas que du basique, on vise des industries à forte valeur ajoutée.
Sans oublier tout le virage vers les énergies renouvelables. L'objectif, c'est 52% de l'électricité à partir de sources propres d'ici 2030. C'est un des plus ambitieux du continent.
Oui, avec des projets phares comme la centrale solaire Nour Ouarzazate, qui en est le symbole.
Mais alors, qu'est-ce qui rend ce modèle si singulier en Afrique ?
C'est une combinaison en fait de plusieurs facteurs qui sont assez rares sur le continent. Le premier, c'est une stabilité politique relative qui permet d'avoir une vision à long terme.
D'accord.
Le deuxième, c'est une discipline budgétaire qui rassure les investisseurs. Et enfin, comme on le disait, une stratégie d'exportation très claire qui est soutenue par des infrastructures de classe mondiale. On pense forcément au port de Tangemed.
Le premier port d'Afrique et de Méditerranée.
C'est ça. C'est toute cette cohérence qui porte ses fruits aujourd'hui.
Et pour illustrer cette modernisation de manière très concrète, le magazine annonce le retour officiel d'Uber à Casablanca et Marrakech. Ça peut paraître un détail, mais c'est un signal, non ?
C'est un excellent signal de l'ouverture du secteur des services. Et l'article précise bien qu'Uber revient en s'appuyant uniquement sur des véhicules de transport agréés.
Ah, donc ils se sont adaptés à la réglementation ?
Exactement, ce qui avait été une source de conflit par le passé.
L'arrivée de services comme les trajets multidestination ou une assistance 24h/7, ça montre que le marché est maintenant jugé assez mature pour des offres plus sophistiquées.
Bon, On a ce tableau d'une économie en plein essor, mais le magazine ne fait pas l'impasse sur les défis internes, notamment sur le plan de la sécurité et de la justice.
Oui, là, on change complètement de registre. Et ça commence avec une affaire qui ressemble à un scénario de film d'action. On parle d'un coup de filet absolument énorme du BCJJ, le Bureau Central d'Investigation Judiciaire.
Près de Casablanca.
C'est ça. Ils ont mis la main sur 16 tonnes de shira, de la résine de cannabis. 16 tonnes. C'est
juste colossal.
C'est une des plus grosses saisies de ces dernières années.
L'article décrit l'opération, 8 arrestations, 390 ballots de drogue, et puis tout l'équipement qui va avec, des embarcations, des moteurs hors-bord, des GPS.
Ce qui est significatif ici, au-delà de la quantité, c'est que ça montre la pression constante que les autorités exercent sur ces réseaux qui tentent d'utiliser la côte marocaine comme point de départ vers l'Europe. C'est vraiment une lutte de longue haleine.
Tout à fait. Et dans un tout autre domaine, celui de la gouvernance, une autre affaire fait grand bruit. C'est la confirmation en appel de la condamnation de Mohamed Boudrika, l'ancien président du Raja.
Le Raja Club Athlétique, oui, une véritable institution.
Il écope de 50 prisons fermes pour malversation financière. C'est un séisme dans le monde du sport marocain.
Un séisme nécessaire, diront certains. Au-delà de sa personne, la portée de cette décision, elle est symbolique. C'est un message extrêmement fort sur la nécessité de renforcer la transparence, la bonne gouvernance dans le sport.
Un secteur qui brasse énormément d'argent.
Énormément d'argent et de passion. Pour un club aussi emblématique que le Raja, c'est une page douloureuse, mais c'est peut-être le début d'une reconstruction sur des bases plus saines.
Et pour clore ce chapitre sécurité, l'article mentionne aussi l'arrestation à Tétouan d'un jeune homme de 26 ans, partisan de Daesh. Il n'était pas juste en train de se radicaliser, il était déjà passé à la phase active de préparation d'un attentat.
Ce qui montre que la vigilance reste maximale sur ce front également.
Passons de la sécurité physique à la sécurité dans le monde numérique. Et là aussi, le magazine présente deux facettes très contrastées. D'un côté, des initiatives pour protéger les citoyens.
Et de l'autre, des menaces de plus en plus sophistiquées.
Commençons par le positif. iWeek met en lumière une campagne de la HCAC, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Oui.
Ils ont lancé une bande dessinée qui s'appelle « Violence numérique, briser le silence en BD ». L'idée est géniale. C'est dispo en arabe, en français et en amazigh.
Pour toucher un maximum de monde.
Voilà. Et ça aborde de front le cyberharcèlement, l'humiliation en ligne, la diffusion de contenus intimes sans consentement.
Ce qui est particulièrement bien pensé, je trouve, c'est l'aspect pratique. L'article explique que chaque planche de la BD contient une boîte à outils avec des conseils concrets.
Comment réagir, comment signaler.
C'est ça, on n'est pas seulement dans la dénonciation, on est dans l'action. Et ça coïncide avec la campagne internationale des 16 jours d'activisme de NUFAM.
C'est un mouvement global, hein ?
Oui, et ce qui est crucial de comprendre, c'est que la lutte contre les violences numériques, ce n'est plus un sujet de niche. La ECA le dit très bien, créer un environnement numérique sûr, c'est une condition indispensable pour atteindre une véritable égalité des genres.
C'est un point essentiel. Mais en parallèle de ces efforts, on arrive à la partie la plus inquiétante.
Ah oui, l'accent, les tics de langage, même les émotions.
Et à partir de quoi ?
Et c'est ça qui est dingue. À partir d'un échantillon audio de seulement 5 à 10 secondes.
C'est faux. Une simple note vocale sur WhatsApp, une vidéo sur TikTok, et c'est suffisant pour que quelqu'un vole votre voix. Et le scénario de l'arnaque qu'ils décrivent, il est diabolique.
Racontez, c'est édifiant.
Alors, un escroc clone la voix d'un adolescent. Il appelle ensuite sa mère depuis un numéro inconnu. Et là, la mère entend la voix paniquée de son propre enfant qui dit « Maman, j'ai eu un accident, mon téléphone est cassé, j'ai besoin d'argent tout de suite pour payer les réparations. Il faut faire un virement sur ce compte. »
L'urgence, la panique, la voix, tout est parfait. C'est l'exploitation ultime de l'émotion.
C'est ça.
On ne pirate plus en ordinateur, on pirate le lien parental. Contrairement aux emails pleins de fautes, ici, il n'y a quasiment aucun indice pour la victime. Le cerveau critique est complètement court-circuité. Vous n'analysez pas, vous réagissez.
C'est glaçant. Après ce focus sur le Maroc, le magazine ouvre une fenêtre sur le reste du monde. C'est intéressant de voir quelles actualités internationales ont été retenues.
C'est toujours un bon indicateur des centres d'intérêt.
En France d'abord, on retrouve la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Peine validée, 1 an de prison, dont 6 mois ferme.
C'est certain que la politique française reste très suivie au Maroc.
On traverse l'Atlantique, direction les États-Unis. Une fusillade à Washington, 2 militaires de la garde nationale tués. L'article précise que le tireur est un ressortissant afghan qui avait collaboré avec l'armée américaine.
Ah oui.
Et le magazine mentionne la réaction de Donald Trump qui a immédiatement qualifié l'acte de terrorisme.
On voit bien ici les thématiques qui se croisent. La gestion des réfugiés, la sécurité, la polarisation politique.
Ensuite, retour en Afrique avec une nouvelle tragique du Nigeria, l'enlèvement de masse de 315 élèves et enseignants dans une école catholique, un drame qui a provoqué une onde de choc internationale.
C'est une blessure qui ne se referme pas sur le continent, ce genre de drame.
Et pour finir ce tour du monde, une rubrique que j'ai trouvée très utile, la fake news de la semaine.
Ah, excellente initiative.
Le magazine dément formellement une rumeur qui était devenue virale. Non, la Russie n'a pas supprimé l'obligation de visa pour les Marocains.
C'était l'inverse, en fait.
C'était l'inverse. L'intox venait d'une mauvaise interprétation d'une déclaration. C'est un bon rappel à la prudence.
Et c'est un enjeu de salubrité publique aujourd'hui de faire ça?
Tout à fait. Allez, après toutes ces nouvelles souvent lourdes, on termine sur la section qui respire la fierté, l'enthousiasme.
Le sport.
Achraf, Hakimi.
Évidemment. Le magazine célèbre son sacre comme Ballon d'or africain 2025. C'est un immense événement. L'article raconte l'hommage vibrant des supporters du PSG au Parc des Princes. Avec des banderoles magnifiques.
J'en ai noté une. Ballon d'or africain, monument parisien, Achraf, lion souverain. C'est un moment de communion qui est très, très fort.
Ce qui est fascinant avec Hakimi, c'est qu'il a vraiment transcendé le statut de simple joueur de foot. Il est devenu un symbole de réussite pour toute une génération de jeunes. Au Maroc, bien sûr, mais aussi sur tout le continent et dans la diaspora.
Il incarne le football moderne.
Le football moderne, oui, mais aussi un attachement très fort à ses racines. Ce titre y vient consacrer un parcours exemplaire et renforcer son statut d'icône.
Et cette fierté individuelle, elle rejaillit sur tout le pays, qui est d'ailleurs en pleine ébullition sportive. Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations.
La CAN 2025, oui, du 21 décembre au 18 janvier.
Tout à fait. Et pour l'anecdote, iWeek nous apprend que 5 arbitres marocains ont été sélectionnés pour la compétition.
C'est bien plus qu'un tournoi. Pour le Maroc, accueillir la CAN, c'est une vitrine exceptionnelle. C'est une opportunité de démontrer ses capacités d'organisation, la qualité de ses infrastructures. C'est un enjeu d'image et de soft power qui est considérable.
Alors, si on essaie de synthétiser ce que nous dit ce numéro, on a le portrait d'un Maroc incroyablement dynamique, un pays qui jongle entre un débat social crucial, une trajectoire économique de leader continental, mais qui doit aussi faire face à des menaces sécuritaires, technologiques.
Et au milieu de tout ça, une immense fierté nationale, cimentée par le sport.
C'est ça.
Exactement. Et si on prend un peu de recul, la pensée qui se dégage, en écho à l'éditorial, c'est celle de la durabilité. Au-delà des annonces et des logiques électorales, la question centrale pour le Maroc, comme pour beaucoup d'autres pays, c'est comment bâtir un projet de société pérenne, comment on concilie l'aide d'urgence, qui est absolument nécessaire, avec les réformes de fond qui seules peuvent garantir un avenir digne. Le vrai défi, c'est de transformer une aide en un droit et un moment de solidarité en un état social durable et inclusif.
C'est une réflexion qui, en effet, dépassait largement les frontières du Maroc.